Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume.
Et l'on retrouve Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. La Cour des comptes a présenté ce mercredi son rapport public annuel 2018. Elle est chargée par la Constitution de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Et par exemple, dans ce rapport, Didier Migaud, on trouve quelque chose au sujet d'un compteur électrique au cours du compteur électrique Linky. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce compteur électrique ?
Oui, pratiquement tous les compteurs vont être changés. 39 millions de compteurs. C'est Enedis qui a la charge de ce changement. Ce que nous disons, c'est que c'est une opération qui a un coût. C'est de l'ordre de 5,6 milliards. Au final, ce sera d'ailleurs payé par le consommateur, alors même que le consommateur, pour le moment, bénéficie peu, voire pas du tout, de ce compteur dit intelligent.
Avec un mécanisme de paiement assez compliqué, puisque repoussé
oui, mais
dans le
temps. Au final, le consommateur paiera, ce sera sur sa facture d'électricité. Alors, l'objectif, c'est de mieux maîtriser la consommation d'électricité, mais pour le moment, il y a un manque d'informations, semble-t-il, pour le consommateur.
On a reproché toutes sortes de choses à ce compteur électrique, qui ne sont pas d'ailleurs dans le rapport de la Cour des comptes, sur son mode de fonctionnement. En quoi ce compteur est-il du ressort de la Cour ?
Enedis est une filiale d'EDF. Nous sommes là aussi, à 100% d'ailleurs, nous sommes là aussi dans le cadre d'entreprises publiques et qui font l'objet de contrôles réguliers de la part de la Cour des comptes. Donc voilà, c'est une opération de grande envergure qui concerne le consommateur et il était donc tout à fait légitime que la Cour des comptes puisse s'y intéresser.
Alors toujours si on poursuit la lecture de ce rapport, il est question également des vaccins. Et là aussi, on est un peu surpris. En quoi les vaccins sont-ils du ressort de la Cour, Didier Migaud ?
Mais la politique vaccinale est une politique de santé publique. Et à partir du moment où c'est une politique publique de santé publique, elle doit intéresser la Cour des comptes. Alors ce que nous constatons d'ailleurs, c'est un certain paradoxe, c'est que la France a été à la pointe pour ce qui concerne les vaccins dans le monde. Et c'est un des pays aujourd'hui où il y a une hésitation vaccinale parmi les plus fortes. Bon, parce que on le sait, il y a eu quelques controverses, il y a eu des crises avec notamment le sang contaminé, la vache folle, une campagne de vaccination contre le virus H1N1.
Donc sur voilà, laquelle vous étiez penché.
Tout un contexte. Oui, il y a un certain nombre de rapports plus anciens de la Cour sur l'ensemble de ces sujets.
Parce que, par exemple, sur le vaccin H1N1, on avait reproché l'achat d'un très grand nombre de doses et de vaccins.
Oui, il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport de la Cour sur ce sujet. Je n'ai plus l'année en tête, mais en tout cas, nous avions fait état de ce que vous dites.
Et donc, à l'issue de cela, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Didier Migaud. À l'issue de cela, il y a effectivement une partie des Français qui sont devenus de plus en plus sceptiques sur l'efficacité des vaccins, peut-être même méfiants. Est-ce que là, par exemple, vous ne faites pas de la politique, notamment par rapport à ceux qui disent que bon, cette obligation vaccinale, elle peut être discutée?
C'est dans le débat ce que nous disons, nous. Vous avez un certain nombre d'objectifs qui sont fixés d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la santé. Bon, avec un certain nombre de recommandations pour les taux de couverture vaccinale. Donc, pour ce qui concerne les vaccins obligatoires, nous sommes tout à fait en phase avec les recommandations de l'OMS. Pas pour d'autres vaccins, alors même que, on le voit bien, il y a quelques foyers qui peuvent ressurgir. Je pense aux oreillons, par exemple, dans certaines régions. Ce type de maladie ressurgit avec des conséquences, y compris sur la vie des personnes. Donc voilà, quand on se vaccine, on se protège soi-même, on protège aussi les autres. Parce que plus le tout couverture vaccinale est élevée, plus ça protège l'ensemble de la population. Alors, ce que nous disons, en faisant état d'ailleurs de toutes ces controverses, c'est nous disons qu'il y a sûrement plus d'avantages que d'inconvénients. Et qu'il faut donc davantage communiquer. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en la matière, fassent de la communication, puissent sensibiliser, d'ailleurs dès l'école, avec les parents d'élèves, sur justement les effets bénéfiques de ces vaccins pour l'ensemble de la population.
Je continue à tourner les pages de ce dernier rapport de la Cour des comptes, Didier Migaud, et là je tombe sur quelque chose au sujet des piscines publiques, preuve de l'hétérogénéité des dossiers dont vous saisissez. Et là, on se demande ce que vous reprochez à la gestion des piscines publiques.
Oh là, c'est un constat qu'effectivement, ce sont des équipements qui peuvent être coûteux, en tout cas qui génèrent des déficits. Alors ça peut se justifier à partir du moment où effectivement il y a le souci de permettre notamment aux plus jeunes de pratiquer la natation, d'apprendre tout simplement à nager. Donc tout ça peut correspondre à un certain service public, mais on le voit bien, il n'y a pas que la natation et l'apprentissage de la natation. Il y a aussi tout ce qui est ludique et qui peut représenter un coût. Ce que nous constatons, c'est que pour les communes, c'est un investissement qui représente un certain coût dans le fonctionnement, alors même que toute une partie de la population qui fréquente ce type d'établissement vient d'autres communes. Donc c'est pour ça que nous disons, c'est vraisemblablement pertinent de faire en sorte que ce soit l'intercommunalité qui prenne en charge ce type d'équipement.
Avec là aussi des conséquences politiques sur le terrain, puisque bien souvent l'intercommunalité, elle pose des problèmes lorsqu'il s'agit d'installer une piscine, des équipements aquatiques divers.
Oui, mais vous pouvez pas avoir une piscine dans chaque commune. Et on voit bien que l'implantation d'une piscine à tel endroit peut intéresser des habitants d'autres communes. Bon, voilà, les frontières communales pour un certain nombre d'équipements doivent pouvoir être dépassées pour pouvoir le mieux possible maîtriser d'ailleurs ce type de dépenses et ses coûts de fonctionnement.
Autre thème que vous avez abordé, celui de la sécurité privée. Et là, les entreprises privées de sécurité ont été sérieusement épinglées dans votre dernier rapport, Didier Migaud. Pourquoi ?
Ce sont des activités réglementées par la loi ou par le décret qui prennent de plus en plus d'importance. Si la Cour les a contrôlées, c'est parce qu'a été mis en place un conseil national de contrôle des activités de ces sociétés privées qui peuvent intervenir donc dans le domaine de la sécurité et que nous constatons un certain nombre de défaillances, d'insuffisances. Donc nous appelons l'État davantage régulé, à être davantage présent dans ce Conseil national. Il y a des marges de progrès pour ce qui concerne notamment le contrôle de la moralité et le contrôle de la professionnalisation, avec quelques exemples que nous donnons.
Par exemple, justement.
Eh bien, par exemple, des personnes qui ont des casiers judiciaires, par exemple, des sanctions qui peuvent être prises par ce Conseil national et qui ne sont pas exécutées sur le terrain. Donc voilà, ce sont quand même des sujets tout à fait sensibles et qui méritent justement que l'État s'y intéresse encore davantage.
En formulant des critiques contre les entreprises de sécurité privée, Didier Migaud,
l'objectif, c'est de faire en sorte que cela s'améliore. L'objectif, il n'est pas de critiquer pour critiquer. C'est à partir de travaux qui ont fait l'objet de contradictions avec ces sociétés privées, avec ce Conseil national, de faire en sorte qu'il y ait que ça fonctionne encore mieux, compte tenu du fait d'ailleurs que ces sociétés privées sont appelées à intervenir de plus en plus souvent.
Oui, on pourrait dire, malheureusement, on pourrait dire aussi que là, vous êtes dans le cadre d'injonctions contraires, parce que ce que font ces entreprises de sécurité privée, c'est ce que l'État, ce que la police ne fait pas ou ne fait plus. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique, dans ces conditions, que la police assure un certain nombre de missions de sécurité qui, aujourd'hui, sont confiées à des sociétés de sécurité privée ?
Non, il peut y avoir des activités qui peuvent être confiées à ces sociétés privées, par exemple des surveillances de tel ou tel événement. Ça n'empêche pas à la police d'être présente, mais vous pouvez avoir un certain nombre de missions ponctuelles ou plus régulières qui sont confiées à des sociétés privées. Par exemple, vous en avez vraisemblablement ici. Il y en a aussi à la Cour des comptes pour l'accueil. Il y en a un nombre d'administrations.
Par exemple...
Ce sont des rôles complémentaires. Mais à partir du moment où, effectivement, c'est une mission de sécurité, il faut que ces activités soient réglementées. Et puis surtout, il faut qu'elles soient contrôlées, qu'on soit exigeant sur la moralité de ceux qui exercent ce métier et qu'on soit extrêmement exigeant également sur les possibilités de contrôle.
Non, parce que finalement, le point commun entre Linky et la sécurité privée, Didier Migaud, c'est dès lors qu'on est dans ce qui relève du domaine commun entre le fait d'apporter de l'électricité aux individus et le fait de leur apporter de la sécurité, est-ce que finalement le régalien, l'État, n'assure pas mieux les missions qu'une entreprise qui va chercher le profit en mettant un compteur qui est critiqué ? C'est la Cour des comptes aussi qui l'a critiqué.
Là, vous êtes dans un débat politique et on peut, c'est tout ce qui peut concerner la frontière entre ce qui relève de l'État et ce qui relève d'autres structures qui peuvent effectivement remplir des missions. Bon, nous raisonnons par rapport à la loi et par rapport à ce qui est prévu dans les textes. Les textes prévoient qu'un certain nombre de missions de sécurité peuvent être assurées par des sociétés privées. Donc voilà, nous contrôlons, nous regardons, nous sommes dans un rôle, si vous voulez, de lanceur d'alerte institutionnel en disant, mais attention, là, vous avez confié telle ou telle mission et sur le plan de la moralité, sur le plan de la professionnalisation, il y a des marges de progrès et puis il y a des sanctions qui sont prononcées et qui ne sont pas exécutées. Donc, voilà, prenez des dispositions pour faire en sorte que la situation s'améliore.
Et puis alors, vous effectuez donc un suivi des dossiers avec des relances. Je prends un autre exemple, la gestion défaillante des stations de ski. Vous en aviez déjà parlé à la Cour des comptes en 2011. Apparemment, vos appels n'ont pas été véritablement entendus. Et donc là, vous y revenez et vous parlez d'un suivi patrimonial défaillant, d'insuffisance de moyens pour prendre en charge la négociation et le contrôle de contrats. Vous êtes inquiet sur la situation des stations de ski en France ?
Il y a un sujet pour les stations de moyenne montagne. Vous savez, le réchauffement climatique peut avoir des conséquences. Alors ça a l'air un peu curieux d'évoquer cela, alors même que nous venons de connaître une période d'enneigement importante. Mais quand vous regardez, quand vous raisonnez sur le moyen terme, on voit bien qu'il y a des années sans neige. Et donc tout miser lorsque l'altitude n'est pas très élevée, la neige, ça peut avoir des conséquences au niveau de la collectivité. Donc voilà, nous appelons les collectivités à y réfléchir et puis à envisager également d'autres moyens de développement.
La numérisation des services de l'État, c'est aussi un autre thème sur lequel vous êtes penché, Didier Migaud. Et là, apparemment, vous êtes moins inquiet que sur les autres dossiers. Et vous notez un certain nombre de choses qui posent encore problème. Mais pour le reste, il y a, semble-t-il, une filière qui s'est mise en place.
Oui, c'est un vrai défi. Il y a des choses qui fonctionnent. Il faut voir comment tout cela peut se concrétiser aussi dans l'intérêt du citoyen et du contribuable. Donc mais il y a des choses positives qui ont été lancées. Ça doit bien sûr se concrétiser, s'amplifier. On voit que c'est une véritable révolution qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement de telle ou telle administration. Donc à nous d'anticiper pour faire en sorte que cette révolution entre guillemets puisse être positif pour tout le monde.
Cette révolution, c'est vous qui l'appelez révolution de numérisation donc des services de l'État, elle va passer aussi, Didier Migaud, par la suppression d'un certain nombre d'emplois et Là, on est dans une séquence qui est une séquence assez longue. Cela a commencé sous Nicolas Sarkozy avec le non-remplacement, en tout cas la volonté affichée de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Aujourd'hui, on parle par exemple de faire appel à des contractuels dans la fonction publique. Quel regard la Cour des comptes porte-t-elle sur ce type de volonté politique ?
Ce que nous observons, c'est qu'il y a un engagement de maîtriser la dépense publique. Et que les dépenses de personnel font partie de cette dépense publique et qu'il y a donc une volonté de maîtriser ces dépenses de personnel. Maîtriser les dépenses de personnel, poser un certain nombre de questions en termes d'effectifs, en termes de rémunération, bien sûr, de durée du travail. Donc tout cela est sur la table. Alors, il appartient à la Cour des comptes de mettre sur la table justement les éléments de maîtrise. Mais ensuite, c'est aux autorités politiques de prendre les décisions. Une fois de plus, ce sont eux qui fixent les orientations, qui prennent les décisions.
Mais c'est quand même un sujet très politique, là.
Oui, mais nous l'abordons, nous, par rapport aux objectifs qui sont définis par le politique.
Bon, on n'arrête pas de dire qu'en France, il y a une question autour de l'indépendance des autorités administratives. Jean-Marc Sauvé, qui est le vice-président du Conseil d'État, a même dit qu'une autorité administrative indépendante, c'était un oxymore déontologique. Est-ce que vous avez l'impression de bénéficier de l'indépendance suffisante ou est-ce que vous dites finalement que vous faites aussi de la politique puisque
intégrante Non, mais nous contribuons bien évidemment au débat public à partir du moment où nos rapports sont publics. Mais c'est ce que prévoit d'ailleurs la Constitution et c'est une bonne chose. Une fois de plus, c'est un regard par une juridiction indépendante qui a ces procédures qui, je crois, représentent des garanties pour tout le monde, à la fois pour ceux qui sont contrôlés, comme pour le citoyen, avec la contradiction et le débat collégial. Ce n'est jamais le rapport d'une personne, d'un magistrat, d'un rapporteur. Le rapporteur, il s'adresse ensuite à une collégialité. Il confronte non seulement son travail à l'entité contrôlée, mais également à une collégialité. Et nous avons une grande diversité de profils au niveau de la Cour des comptes. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la politique publique de vaccins. Nous avons aussi des médecins, des professeurs de médecine dans nos rangs. Et nous consultons bien évidemment l'ensemble des parties prenantes lorsque nous nous exprimons sur un sujet. Donc je pense que pour le bon fonctionnement d'une démocratie, c'est bien qu'il puisse y avoir comme ça des institutions totalement indépendantes qui peuvent être utiles pour le débat public, utiles pour le gouvernement, utiles pour le Parlement, utiles pour le citoyen, à la condition, bien évidemment, que ce soit toujours les représentants du suffrage universel qui décident en dernier ressort.
Mais finalement, vous êtes un peu exposé aux mêmes critiques que les journalistes. C'est-à-dire que nous, lorsque on choisit des informations, on essaye, et j'espère que nous le sommes, d'être honnêtes, d'avoir la plus grande objectivité possible, mais d'un autre côté, on a un agenda, c'est-à-dire que l'on choisit, on met en ordre. Vous, par exemple, quand vous décidez de vous intéresser au compteur Linky, c'est peut-être un sujet qui ne dit rien à certains auditeurs, mais ce compteur Linky, il a aujourd'hui une forte charge politique. Il a, par exemple, été au cœur d'un certain nombre de discours politiques, celui de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est opposé dans sa commune à l'installation de ce compteur. Est-ce que c'est vraiment possible, dès lors que vous ne pouvez pas tout traiter, personne ne peut vous faire cette critique-là, Didier Migaud, de s'exonérer du reproche de faire aussi de la politique.
Mais chacun doit rester dans son rôle. Une fois de plus, que des sujets que nous traitions soient dans le débat politique, oui, les finances publiques sont bien sûr dans le débat politique. Mais nous raisonnons, une fois de plus, à partir d'engagements qui sont pris par les autorités politiques. C'est pas la Cour des comptes qui elle-même fixe ses objectifs et voit ensuite ce que le gouvernement, ce que le Parlement font. Non, nous raisonnons à partir des objectifs qui sont définis par ceux qui ont la charge par les citoyens de définir ces objectifs. Alors, et ce qui nous est demandé, c'est justement de constater ou non les écarts. entre les intentions et puis les résultats. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, je constatais ce décalage qu'il peut y avoir entre le niveau de crédit public et les résultats. C'est un vrai sujet pour notre pays. Parce que pour améliorer l'action publique, point n'est toujours besoin d'augmenter d'ailleurs les crédits de telle ou telle politique publique. Parfois, ce sont des questions d'organisation, de fonctionnement, de répartition des moyens. Et avant de penser immédiatement à plus de crédits, il faut peut-être regarder quels sont les résultats. Est-ce qu'ils sont conformes aux objectifs et est-ce qu'il y a la meilleure façon d'arriver aux résultats?
Alors comment vous traitez par exemple un dossier qui là aussi est très politique comme celui de la dette des hôpitaux, Didier Migaud?
À partir d'un certain nombre de constats que nous pouvons faire, nous avons constaté ces dernières années que la dette avait très sensiblement augmenté. Alors pourquoi elle avait augmenté ? Parce qu'effectivement, il y a eu des programmes d'investissement. Alors, il faut regarder si les investissements ont été utiles, ont été efficaces, efficients par rapport à un certain nombre d'objectifs qui ont été définis par les pouvoirs publics. Et c'est là où on s'aperçoit que ces investissements n'ont pas toujours été aussi pertinents qu'on avait bien pu le dire au moment où ils ont été lancés. Donc nous sommes là aussi dans notre rôle en pointant justement ces difficultés.
Mais alors pourtant, toutes les économies, si on prend par exemple la question donc de la fraude aux amendes de stationnement et donc la gestion des amendes de circulation, qui est là aussi un sujet qui pourrait devenir explosif, puisque il y a aujourd'hui un mouvement qui consiste à confier à des entreprises privées la gestion donc des amendes de circulation. Est-ce que ça n'est pas aussi un peu du fait des observations de la Cour qu'un certain nombre de municipalités décident de s'orienter vers ce type de processus ?
Une fois de plus, nous ne substituons pas au choix des autorités politiques. Ce que nous pouvons constater, par exemple, sur les contraventions, c'est que le taux de recouvrement ne correspond pas obligatoirement au nombre de contraventions envoyées. Et puis que s'agissant du recouvrement forcé, là aussi, après une certaine période, après quelques relances, il y a des marges de progrès possibles. Donc voilà, nous disons que de temps en temps, il pourrait y avoir plus de recettes si tout fonctionnait correctement. Mais c'est la même chose lorsque nous constatons un certain nombre de défaillances dans la lutte contre la fraude aux cotisations sociales. Et là aussi, il y a quelques dizaines de milliards d'euros qui ne sont pas suffisamment contrôlés, donc nous le disons.
Au global, le discours de la Cour tel qu'il est restitué dans ce dernier rapport, Didier Migaud, quels sont les points sur lesquels vous aimeriez insister et être entendu ?
Globalement, vous avez un taux de suivi de nos recommandations de l'ordre de 73% totalement ou partiellement. D'ailleurs, ce que nous pouvons constater, c'est dans une administration donnée, par exemple, entre le début d'un contrôle et la fin d'un contrôle, il y a déjà des choses qui peuvent bouger. C'est le résultat, d'ailleurs, d'une contradiction, d'échange entre l'organisme contrôlé et le contrôleur. Donc tout ça va dans le bon sens. Alors, parmi ces 73%, 24% totalement. Bon, et le reste partiellement ou en cours sur les trois dernières années. Alors c'est vrai que quand nous invitons à davantage agir pour l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, nous avons un petit peu plus de difficultés à être entendus et à être suivis. Alors je reconnais que c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des possibilités, il y a des marges de manœuvre, il y a des marges d'efficacité et d'efficience que nous nous efforçons d'identifier, et c'est pour cela que nous les mettons sur la table.
Et sur la question donc des économies structurelles, puisque finalement, il y a quand même un point commun. Vous dites, voilà, nous substituons pas aux politiques et donc aux décisions nationales. Mais on voit bien finalement que le fil conducteur, c'est la bonne gestion des finances publiques, la règle des 3%, avec un certain nombre d'attentions portées sur des choses qui peuvent permettre donc d'économiser les deniers publics. Est-ce que vous avez un avis, des conseils sur les réformes structurelles que l'État devrait mener, Didier
Migaud ? Là aussi, ça relève des décisions que doivent prendre les autorités politiques. Ce que nous disons, c'est que l'amélioration de la conjoncture peut avoir un effet mécanique, un effet mécanique, bien évidemment, sur les recettes de l'État et de la sécurité sociale. Quand vous avez 1,9% de croissance, ça fait davantage de recettes que lorsque vous avez 1% de croissance ou 0, quelque chose. Donc ça a un effet mécanique. Donc notre situation s'améliore. Le problème, c'est que ça ne règle pas obligatoirement les problèmes de fond, notamment d'efficacité, d'efficience de la dépense publique. Donc ça veut dire que c'est pas parce que la conjoncture s'améliore qu'il faut oublier un certain nombre de réformes structurelles qui sont nécessaires. Et c'est plutôt par beau temps que vous réparez la toiture. Bon, et que vous engagez justement les réformes de structure. Donc voilà ce que nous disons, c'est attention, il ne faut pas que l'amélioration de la conjoncture ait un effet anesthésiant.
D'ici à 2019, sur quoi voudriez-vous vous pencher? Quels sont les points sur lesquels la Cour des comptes pourrait travailler pendant un an sur le prochain rapport, Didier Migaud?
Vous savez, pratiquement toutes les politiques publiques, sur toutes les politiques publiques, on voit qu'on peut avoir des marges d'efficacité et d'efficience sur la politique du logement, sur la politique de l'emploi, sur la politique des aides aux entreprises, sur la politique de la formation professionnelle. Vous avez, y compris d'ailleurs dans le domaine de la santé, je pense au transport sanitaire, où vous pouvez avoir des effets d'aubaine. Il faut que l'on puisse expliquer que l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Bon, et que l'intérêt justement de la France et de l'ensemble des Français, c'est qu'on puisse corriger progressivement, en tout cas, ces effets d'aubaine qui ne profitent qu'à quelques catégories de population, au détriment souvent de l'intérêt général.
Merci Didier Migaud de nous avoir exposé quelques points présents dans le dernier rapport, rapport qui est consultable gratuitement sur Internet,
bien sûr.
Pour les conclusions de la Cour. Je ne sais pas si vous avez des observations à faire sur ceux qui démontent l'audiovisuel public, comme Aurélien Bélanger qui a tenté de démonter son micro tout à l'heure. C'est, oui, il est responsable de dégradation des biens publics, mais il l'a réparé.